Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir.
Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et vous écoutez l'épisode 3 de la troisième saison dédiée à une sacrée food entrepreneuse, Delphine Plisson.
C'est plus compliqué de grandir quand on commence petit. Je trouvais ça intéressant de faire un projet qui soit dès le départ un peu couillu. Aussi et surtout parce que en faisant le tour des régions, je me rendais compte du nombre de références dingues de produits dans toutes les catégories. Je me disais, bah il va falloir de la place en fait là. Et encore
ça,
parce
ça
que je,
au fur et à mesure.
Ouais, enfin il fallait pousser les murs dès le départ quoi. Donc c'était beaucoup lié à ça et puis aussi parce que je tenais beaucoup à ce qu'il y ait un restaurant et qu'on fasse nous-mêmes le pain. Donc il fallait un fournil, il fallait une boulangerie. Donc il y avait pas mal de trucs sur les qui demandaient de la place quoi.
Pourquoi Delphine? Parce qu'elle représente pour moi la food entrepreneuse suprême de ce début de 21e siècle. Sa maison Plisson, c'est le supermarché rêvé. Je peux passer des heures à en arpenter les rayons, à baver devant les vitrines de fromage et à hésiter devant les pots de confiture. Dans cet épisode, Delphine parle justement avec humour de confiture, de mode et de saucisson. Cet épisode a été enregistré en live dans sa maison Plisson de la place du marché Saint-Honoré. Avant d'écouter, petit rappel, comme les chefs, j'aime bien les étoiles, donc n'oubliez pas de nous noter sur Apple Podcast en lui en décernant un maximum. Bonne écoute!
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour Delphine, merci à vous d'être venue. Merci Delphine de nous accueillir aussi bien.
Bienvenue à la maison.
Bon alors... T'es à la tête des deux meilleures adresses parisiennes pour dénicher un super bon saucisson, de la super bonne charcuterie, du délicieux fromage, tout ce qu'on aime. Quelle place occupe la nourriture dans ta vie?
La place qu'occupe l'alimentation de ma vie, c'est absolument central, très clairement central. Je fais partie des dingues qui mettent leur réveil pour être prums au marché pendant les vacances, donc je pense qu'on peut considérer que c'est un sujet assez omniprésent, ouais.
Tu m'as confié que les gens, quand tu les invitais à dîner, au lieu de t'amener des fleurs, ils t'amenaient du saucisson.
Ouais, je connais très peu de... Quand quelqu'un arrive à la maison avec des fleurs, mon mari, en général, il dit « Ah, il te connaît pas tant que ça
!» C'est pas un vrai ami.
C'est un bon filtre. C'est vrai qu'en général, j'ai plutôt une charcuterie qui vient de quelque part, ou une confiture, une bouteille de vin de façon plus classique, mais avec... je préfère très clairement tout ça aux fleurs, vraiment. J'ai rien contre les fleurs, hein, mais c'est vrai que je préfère manger et boire, en fait.
Et petite, t'aimais déjà manger?
Petite, j'aimais déjà manger, oui. Après, c'est beaucoup venu quand j'ai commencé à cuisiner. Et j'ai commencé à cuisiner assez tard après être partie de chez mes parents. Donc, j'ai acheté le bouquin de Ginette Mathiot, je me souviens. Et mes amis ont fait les frais pendant des mois de mes essais tout pourris, plus un peu moins pourris. Et puis, petit à petit, ça s'est amélioré. Mais j'ai vraiment aimé manger quand j'ai commencé à cuisiner, moi, ouais.
T'avais quel âge?
J'avais 20 ans.
T'étais étudiante?
Ouais, j'étais étudiante, j'avais mon petit appart et il fallait bien se nourrir. J'avais un truc, c'est que j'ai toujours bien aimé les bons produits, donc j'aurais pas été vraiment foutue de manger des trucs qui me plaisent toujours pas d'ailleurs, industriels ou autres. Donc je prenais quand même le soin de me faire une petite tambouille et puis j'avais évidemment pas mal de potes, donc c'était quand même plutôt chouette de pouvoir recevoir aussi, quoi.
Tu t'imaginais, c'est vrai que tu t'imaginais pas épicière, tu t'imaginais libraire quand
ouais.
T'étais jeune.
Ouais, c'est pas si loin en fait. Alors c'est vrai que j'ai longtemps voulu être libraire, mais en fait à la place des auteurs, il y a des producteurs ou des vignerons. Mais finalement, le principe est le même, c'est de pouvoir présenter un travail qu'on aime, pouvoir échanger avec les clients, pouvoir faire un métier très interactif parce que encore que ce soit en librairie ou dans une épicerie, finalement on a aussi beaucoup d'échanges et beaucoup de recommandations et beaucoup d'idées. Enfin c'est des lieux de vie, c'est très vivant. Donc sur ce plan-là et puis j'imagine sur d'autres plans, c'est finalement assez proche, ouais.
Et donc c'est à New York, je crois que t'as eu cette idée, enfin que t'as pas eu cette idée, mais que malgré toi t'as découvert Dean and De Luca, qui t'a inspiré quelques années après pour monter la maison Plisson.
Ouais, en fait, j'étais stagiaire à New York à la fin de mes études et j'étais physiquement dans New York, pas très loin de Dean and De Luca, qui est sur Brooklyn, sur Broadway, dans Soho. À l'époque, c'était vraiment un lieu hyper inspirant, hyper beau. Je trouvais ça juste brillant. Les produits étaient bons, le staff avait l'air content d'être là, la musique était super. J'avais pas beaucoup de sous, mais je pouvais m'offrir une cup de soupe. Même la cup de soupe, c'était déjà super classe. Avec la petite serviette en papier, je ressortais de là. J'y passais des soirées entières à regarder, à écouter, à me promener. Je trouvais ça vraiment génial. Et en fait, je suis surtout rentrée en France en me disant qu'un jour, un lieu comme ça existerait à Paris et que ça serait génial parce que c'est quand même le pays de la gourmandise, de la gastronomie et puis sans doute un des pays les plus riches en terroirs et en produits d'alimentation de qualité quoi. Donc j'étais persuadée qu'un jour ça arriverait. Pour des raisons diverses et variées, ma vie professionnelle s'est orientée dans un autre monde et j'ai passé 20 ans à emmerder absolument tous mes potes en leur disant un jour quelqu'un va faire un truc comme ça à Paris, ça va être vraiment super. Et puis je l'ai jamais vu arriver quoi.
Sans penser que ce serait toi.
Non. J'avais pas une âme d'entrepreneur du tout. J'ai été salarié pendant 20 ans et je trouvais ça super. Moi, j'étais quand même hyper confortable d'être salarié aussi. Donc je voyais pas en quoi il y avait un problème. Je faisais un métier chouette dans un secteur chouette. Enfin, j'avais pas vraiment de raison de me plaindre. C'était pas un métier que j'avais choisi parce que je me suis retrouvée dans la mode totalement par hasard parce qu'on m'a proposé un stage chez Agnès B en 93. C'était une boîte super, je sortais de mes études, je pouvais avoir des fringues gratos, c'était quand même un combo gagnant quoi. c'était pas très bien payé mais c'était très rigolo. Je me suis fait plein d'amis que je vois encore aujourd'hui. Enfin, le tout était chouette donc j'ai pas remis le truc en question du tout.
T'as bossé pour des super boîtes, pour Saint-Laurent, pour Antique Bâtie.
Ouais, bah j'ai eu le temps. Hein. Enfin, en 20 ans, t'as le temps de voir du pays, tu verras.
Mais t'as eu une super carrière aussi.
Ouais, j'ai commencé chez
ASV, aussi,
après j'étais chez Saint-Laurent, après j'étais chez Balibaret, chez Antique Bâtie, chez Sandro, chez Claudie Pierlot, enfin voilà. J'ai passé 20 ans dans ce secteur-là, donc ça passe vite en fait. C'est une fois qu'on les a passés qu'on se rend compte que c'est passé vite, ouais. Mais...
Et qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter? Parce que quand t'as arrêté, t'avais pas encore le projet de Maison Plisson.
Non, pas concrètement, mais je savais par contre que j'avais bouclé un cycle et que j'étais arrivée au bout d'un truc. Ça me plaisait plus, en fait. Enfin, ça me plaisait plus, c'est un peu du luxe de se dire ça, mais je me réveillais je me souviens que le dimanche soir, je me disais genre, oh, merde, c'est dimanche soir, demain j'y retourne. C'était pas vraiment un truc genre waouh génial c'est dimanche soir et ça m'emmerdait quand même et en même temps je pouvais pas vraiment me plaindre parce que j'avais un boulot ce qui est déjà un luxe j'étais bien payée ce qui est un super luxe pour élever mes enfants seuls ce qui était super et je faisais pas le pire métier de la terre donc j'étais pas vraiment dans une position suffisamment inquiète emmerdante pour me dire bon allez faut y aller et en même temps je me connais et je sais que à partir du moment où je commence à me dire j'ai pas envie d'y aller j'ai pas envie de les voir pourvu que ce soit pas ma dernière journée putain, ça, parce que sinon elle est vraiment pourrie c'était plutôt des idées comme ça donc c'est pas super bon signe donc au bout d'un moment je me suis dit bon il faut que je fasse un truc il s'avère qu'à ce moment là le groupe pour lequel je travaillais qui était Sandro, Maj, Claudie Pierlot SMCP, j'ai été informée qu'on allait ouvrir le capital à un nouveau fonds d'investissement on l'avait déjà fait deux fois en trois ans précédemment. Autant la première fois, c'est hyper excitant. T'as l'impression d'être Mélanie Griffith dans Working Girl. Il se passe des trucs. Tu parles de chiffres. C'est super valorisant. L'impression d'être dans les hautes sphères du truc. Autant la deuxième fois, bah du coup, tu te rends compte que c'est un peu redondant. Et la troisième fois, je me suis dit, ça va être chiant, quoi. Du coup, très spontanément, pendant un dîner où on m'annonçait ce projet, j'ai dit non, mais moi, je serai plus là, en fait. Et je me souviens que mon patron de l'époque était donc à la table, m'a envoyé un texto en me disant « Qu'est-ce qui te prend ? Ça va ? Tu veux qu'on se parle ?» Et je savais pas vraiment ce que j'allais faire derrière, mais je savais vraiment qu'il fallait que je précipite la rupture parce que je voulais pas me retrouver à me résigner dans un truc qui me plaisait pas, qui m'excitait pas et qui pouvait s'inscrire dans la durée. Hein. J'aurais pu finir ma vie tranquillement derrière un bureau, mais ça me ressemblait pas beaucoup quoi. C'était
donc,
pas
t'as arrêté de travailler, tu t'es dit que t'allais prendre du temps pour toi, tu t'imaginais entreprendre ou pas encore?
Non, j'ai pas arrêté à ce moment-là parce que du coup j'ai été invitée à participer à l'ouverture du capital parce que j'étais DG d'une des marques du groupe donc c'était pas idiot que je sois encore là. En échange de quoi, j'avais la possibilité du coup de prendre du temps le soir, le week-end et puis je voyageais beaucoup pour ce groupe donc ça me permettait aussi d'aller voir des projets, de rencontrer des gens, enfin d'avoir une le temps, ce qui est un luxe pour la peine énorme, de lire tous les documents, les bouquins, de regarder des docus, d'aller visiter des endroits, de rencontrer des gens, enfin de j'ai appelé ça faire les ponts, j'avais un côté vraiment me nourrir le plus possible. Et puis au bout de 8-9 mois, j'ai commencé à prendre des notes, enfin j'avais pris pas mal de notes, j'ai commencé à rédiger un projet en me disant voilà, concrètement à quoi ça pourrait ressembler, ça serait où, on ferait quoi.
C'était déjà la maison Plisson.
C'était la maison Plisson, ouais. Et après, quand j'ai eu fini le book, je me suis dit, bon, je vais faire un business plan, parce qu'on va m'en demander un à un moment ou à un autre. Bon, comme j'ai une formation plutôt dans la gestion et que je dirigeais des boîtes, j'aurais été chanteuse folk, ça aurait été emmerdant, mais là, je savais quand même à peu près faire le truc. Je me suis rendu compte d'ailleurs qu'on sacralise, on dramatise vachement ce genre de truc, alors qu'en fait, il y a des tutos partout sur Internet, c'est pas si compliqué. Mais il y a plein de crétins qui montent des boîtes, hein, donc c'est un signe. A priori, on doit pouvoir faire un business plan facilement. Et du coup, j'ai présenté ça à mes fameux patrons de l'époque, avec qui je m'entendais super bien, qui m'ont répondu par texto en disant « Mortel, super idée, on te suit, si tu as besoin d'actionnaire, on t'accompagne. » Ça aurait dû être un jour de fête. En fait, je me suis rendu compte que c'était plus tordu que ça, les jours de fête. C'est-à-dire que j'ai paniqué. Enfin, sur le coup, je me suis dit « Merde, il va falloir que je le fasse. » Un peu comme si j'avais appris la danse à 45 balais dans mon salon et que d'un coup, on m'appelle pour me dire « Tiens, au fait, demain, tu danses à Bercy derrière Beyoncé. » Tu vois, le truc un peu genre « Oups, il y a un problème. » Du coup, j'étais à la fois hyper excitée et puis en même temps totalement terrorisée à l'idée de plonger, quoi.
Et c'est ton meilleur ami qui t'a révélé, remémoré cette idée de
Ouais, sans doute. Alors avant, effectivement, je commence à, si je rembobine, entre le moment où j'ai dit que j'allais quitter le groupe et le moment où je me suis attelée à la maison Plisson, il s'avère que j'ai un meilleur ami. Bon, je vous recommande le principe, c'est vachement pratique. Que c'est le même depuis que j'ai 13 ans, donc pareil, c'est bien parce qu'on se connaît très bien. Et quand je lui ai dit que j'avais annoncé que j'allais quitter mes fonctions, il m'a dit « Ah, mais génial !» Tout le monde me disait « Mais t'es complètement folle, mes parents en panique, mais enfin, qu'est-ce que tu vas faire? T'as deux enfants ?»« Oui, je suis au courant, en fait. Qu'est-ce qui va se passer ?» etc. Et en fait, le seul qui a réagi de la façon parfaite, c'est mon meilleur ami qui m'a dit « Ah, tu vas enfin monter ton truc dans la bouffe. Depuis 20 ans, tu nous saoules avec tes histoires de produits, qu'il faut aller dans telle région en vacances pour manger tel truc. » Bon bah tu vas pouvoir le faire toi. Et je l'ai regardé en lui disant mais bah non, enfin c'est pas mon métier, j'ai jamais monté de boîte, j'ai 40 balais, enfin non, j'ai pas de sous. C'était un sujet aussi, hein, ça des fois ça sert en fait. Ça me semblait pas à ma portée. Puis en fait ça a quand même déclenché un truc au moins de réflexion qui a mené à tiens finalement ce fameux truc auquel je pense depuis Dinan De Luca. Même si le but c'était pas de faire un Dinan De Luca, mais de faire vraiment un lieu de vie sympa, pas chiant et pas présomptueux ou mais où il y aurait vraiment que des très bons produits mais à des prix normaux mais dans un lieu quand même un peu chouette quoi où on a envie de passer un peu de temps quoi.
Donc, comment voilà. T'as su que c'était la bonne idée?
Je suis toujours pas sûre. comment j'ai su que c'était la bonne idée? Quand j'ai commencé à en parler un peu autour de moi et que j'ai vu que les gens adhéraient, c'était il y a 6-7 ans, donc les gens commençaient à vraiment prendre conscience de l'impact de leur alimentation sur leur santé, mais c'était quand même étonnamment aujourd'hui quelque chose d'assez émergent. Enfin, c'était pas du tout évident, la corrélation entre l'alimentation et la santé, en tout cas pour l'immense majorité des gens. C'est toujours pas le cas, mais ça s'arrange. Mais quand j'en parlais autour de moi, je voyais quand même qu'il y avait quelque chose qui était en train, les lignes étaient en train de bouger. Il y avait quand même vraiment un ras-le-bol d'une certaine consommation, une demande de certaines valeurs, et que le projet s'articulait au milieu de ça sans être opportuniste pour autant, parce qu'il répondait à quelque chose qui était en moi depuis très longtemps, quoi. Donc voilà.
T'as pas eu d'autres idées qui t'ont traversé l'esprit
À part la prostitution,
de business.
Concrètement, non. Non, en plus, enfin, comme je te l'ai dit, j'étais pas partie spécialement pour entreprendre. J'étais partie parce que j'avais bouclé ma boucle dans la mode. Je sais pas du tout ce que j'aurais pu faire d'autre, mais j'ai pas eu d'autres idées.
De business.
Et d'un business hyper...
Tu t'es dit, bon, je choisis lequel.
Ouais, c'est ça, dans une liste de trucs qui rapportent plein de sous et tout, super. Non, j'ai pas eu d'autres idées, mais en fait, c'est un peu comme... quand tu décides d'avoir un enfant, tu sais que c'est pas le bon moment, t'es pas sûr que ce soit vraiment très malin, ça va coûter des sous, machin. Mais il y a un moment donné, ça s'impose. C'est pas forcément un truc que rationnel, quoi. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est un peu le même principe que la maternité. C'est un truc dans lequel tu te lances. Tu sais pas forcément, tu as une vague idée de ce à quoi ça ressemble, t'en as vu chez les autres. Mais après, tu as le droit aussi de douter, de te poser plein de questions et de, c'est un peu le principe. C'est, ça se construit un jour à la fois. Donc, toute façon, tous les business plans que j'ai vus chez les autres sur 4 ans, 5 ans, 8 ans, etc., ça se réalise jamais. Enfin, un business plan, c'est uniquement fait pour rassurer des banquiers et des actionnaires, parce que dans la vraie vie, enfin, la vie a beaucoup plus d'imagination que nous. Donc, le projet, il évolue, il va se transformer, il va muter. Le but étant qu'il soit de plus en plus juste, mais qu'il reste en phase avec ce qu'on voulait faire au départ. Après, c'est pas un truc qui peut être stratégiquement capé avant d'exister. Il y a plein de trucs qui se règlent in vivo, quoi.
T'avais mis quoi dedans? Tu te souviens?
Il y a pas très longtemps, je l'ai re-regardé et j'étais assez surprise. On est vachement proche de ce qu'il y avait dans le book.
De ce que t'avais marqué.
Ouais, vraiment. Mais pour plein de raisons aussi, parce que j'ai choisi les lieux, j'ai pas pris d'archi d'intérieur, on les a décorés nous-mêmes. Les produits, c'est nous qui les avons sourcés. Les équipes, enfin, il y a une équipe et elle s'est constituée vraiment avec le temps autour de nos valeurs et de des valeurs des gens qui travaillent ici. Enfin, c'est comme un orchestre, tu vois. Il faut que tout le monde joue sa partition et que la musique soit agréable à entendre. En fait, c'est ça une entreprise, quoi. Et
ça ressemble à ce que pour moi. Imaginé, en tout cas.
Ah ouais, vraiment. Enfin ouais, c'est super de se. Enfin, quand j'arrive le matin, tous les matins, c'est quand même. Ça reste un vrai. C'est un kiff, quoi. C'est-à-dire, ça existe, quoi.
Là, t'es pas à la boule au ventre le dimanche soir à te dire ah non.
Ah non, non, mais il n'y a plus de dimanche soir parce qu'on est ouvert 7 jours sur 7. Donc c'est j'ai pratique. Trouvé une solution hyper pratique pour faire de boule au ventre le dimanche. Mais non, il n'y a plus de boule au ventre du tout, vraiment pas. Et surtout, j'espère qu'il n'y en a pas pour les personnes qui travaillent pour la maison Plisson, quoi. Parce que ça serait vraiment un truc qui me plairait pas. Je trouverais ça triste, quoi.
Donc tu parlais du côté entrepreneuriat et construction au jour le jour. T'as commencé avec ton business plan. Après ça a été quoi les étapes pour arriver aujourd'hui à deux maisons Plisson?
La première étape c'était donc d'ouvrir la première. Le plus compliqué c'était de trouver des sous et un local. En fait c'est à peu près aussi compliqué de trouver un local que de trouver des sous.
Ah oui,
parce que trouver un local dans Paris quand il faut cuisiner, on voulait que ce soit quand même un peu grand pour pouvoir avoir des métiers différents et puis une offre assez large, etc. Donc c'était pas évident.
Et je voulais m'installer
dans le troisième, vers le boulevard Beaumarchais en l'occurrence, parce que j'y vivais et que donc j'étais persuadée que c'était le centre du monde. Et puis ça m'arrangeait surtout.
Ouais, t'avais remarqué aussi
non,
qu'il y avait
j'avais vraiment
un
remarqué
besoin,
qu'il y avait parce qu'avant j'y vivais déjà, mais en travaillant dans un autre secteur. Et quand je sortais du bureau à 19h, je me rendais compte que tout était fermé.
Rue de Bretagne, machin.
Il n'y a pas de Monoprix en dehors de Saint-Paul ou de République, mais entre les deux, il y a vraiment plus rien. Alors que c'est un quartier qui est hyper résidentiel. Et puis il y a tout le 11e qui est collé à 50 mètres, qui est à peu près le même sujet. Et je trouvais ça hyper bizarre, en fait, qu'il y ait autant d'écoles, autant de familles, autant de vies, plus les gens qui viennent travailler, etc. Et qu'il n'y ait pas du tout qu'il y ait de moins en moins d'offres alimentaires. Et j'étais assez. Alors je trouve ça chouette que la rue de Bretagne devienne une rue de pâtissiers, que chocolatiers, confiseurs, etc. Mais je trouve ça un peu chelou en même temps parce que je fais pas tous les matins chez La Durée, puis chez Jacques Génin, puis chez Jean-Paul Évin, puis chez Pierre Hermé. Alors c'est un peu bizarre de voir comment les quartiers se transforment autour d'offres finalement hyper niches dans des quartiers de vie. Et puis surtout, pour moi-même, avoir pas mal d'enfants scolarisés dans le quartier, je trouvais ça un peu bizarre de pas pouvoir aller boire un café, faire trois courses, comme dans un quartier de vie normal, quoi.
Au même endroit, oui.
Ouais, et puis de pouvoir passer du temps dans un endroit, quitte à bosser, bouquiner avant d'aller bosser, ou je sais pas, rentrer le soir, avoir envie de boire un verre et de faire trois courses, sans être obligé de courir avant que la boucherie ferme, avant que le boulanger ferme, avant que le fromager ferme. Enfin, juste, c'est quand même pas super... adapté aux horaires de... Et quand j'avais demandé, je me souviens, au fromager du quartier, pourquoi il fermait à 19h15, il m'avait dit, mes parents ont toujours fait ça. Je me suis dit, ouais, mais en même temps, moi, je sors du boulot à 19h... Enfin, je suis désolée, mais je pense que je ne suis pas un cas isolé. Mais en fait, il y a un truc culturel, quoi, aussi. Et c'est vrai que moi, je trouvais ça chouette d'imaginer de pouvoir faire mes courses dans des commerces de bouche jusqu'à 21h. Je trouvais ça... Et le dimanche, par exemple. Je vois...
Clairement, le dimanche,
ça marche super bien le dimanche parce que, en fait, Bah, déjà, faire ses courses ici, c'est un peu moins une corvée puisque tu peux boire un café, les gens se retrouvent pour le petit déj ou pour boire un verre. C'est pas le même principe. Les produits sont super. L'équipe est passionnée par ce qu'on fait.
Donc, bonne musique,
c'est pas la même ambiance que d'aller faire ses courses pour faire ses courses, quoi.
Tout à fait. Donc, enfin, les banques t'ont tout de suite suivi. Enfin, ça a été. Tu disais que c'était difficile de trouver des sous.
Je pensais que ça serait hyper simple. Je pensais que ça serait hyper simple parce que comme autour de moi, les retours étaient ouais super, c'est une super idée ce projet, etc. Je me suis dit je vais mettre une robe, je vais aller voir un banquier, je vais lui expliquer mon projet, puis je vais rentrer avec un chèque, puis comme ça je serai un local. On y va. Et en fait j'ai fait 120 rendez-vous. Je les ai comptés à un moment donné parce que je me disais j'en suis où là. Et en tout et pour tout j'ai fait genre 120 rendez-vous. À chaque fois on me disait c'est une super idée, hein, hyper sympa, vraiment ça va être cool. On vous financera évidemment pas, mais on viendra. Et c'était vraiment un truc bizarre, quoi, parce que chaque fois, je disais, mais si vous me financez pas, du coup, vous comptez venir quand? Où? Enfin, non, mais quelqu'un le financera, parce que c'est vraiment super.
Quelqu'un, mais pas moi.
Mais en fait, c'était très con, c'est-à-dire qu'il partait du principe que si ça n'existe pas, il y a une raison. Tu vois? Et les banques, à leur décharge, ne sont pas là pour prendre des risques. Enfin, c'est pas leur. Donc, quand j'ai eu finalement compris ça, je me suis dit, je vais aller chercher des sous auprès d'actionnaires privés. Alors, le bol que j'avais, c'est que j'avais 40 ans, que j'avais bossé pendant 20 ans, donc je connaissais des gens qui avaient des sous et qui étaient susceptibles d'avoir envie d'investir. Et puis après, petit à petit, à chaque fois que quelqu'un me disait « bah ouais, ça m'intéresse, j'investis », je lui demandais de me présenter deux personnes de son entourage susceptibles d'avoir envie d'investir aussi. Parce qu'en fait, on évolue tous dans des milieux socio-professionnels avec grosso modo autour de soi. Donc, bah si Michel peut mettre un ticket de 50 000 avec un peu de bol autour de lui, il a des copains ou des collègues qui ont des sous et qui vont avoir envie d'investir. Et finalement, ça s'est fait comme ça, assez vite.
Donc, t'as fait une levée de fonds.
Ouais. Ouais. J'ai fait une première levée de fonds à ce moment-là, d'un tiers de la somme dont j'avais besoin, parce qu'en même temps, je voulais garder le contrôle de la boîte, mais j'avais pas d'argent. Va expliquer ça à un banquier. Et du coup, heureusement, j'ai eu des actionnaires ultra... c'était pas un fonds, c'était vraiment des gens qui avaient des sous à investir pour des raisons diverses et variées, qui avaient envie de ce projet-là, et qui du coup ont soutenu, ce qui m'a permis après d'aller vers les banques, bizarrement, un peu assouplies. Et après, j'ai pu emprunter les deux tiers de la somme dont j'avais besoin pour faire la première. Après, ça a démarré, on était sur des timings hyper courts, moi je m'étais donné 18 mois pour réussir à monter le truc. Puis en fait, bah, tu te rends compte très vite que d'abord, 18 mois, vous avez dû remarquer, mais ça passe très vite. Deux, trouver des sous, trouver le local, trouver l'équipe de début, les produits, le sourcing et tout, ça passait une vitesse folle, quoi. Donc c'était quand même assez tendu en timing. Il y a eu des moments où je me suis dit, bon...
T'as mis combien de temps finalement?
18 mois.
18 mois, ouais. Ah oui.
18 mois, j'étais sur la ligne d'arrivée. Il y a quelqu'un, Jean-Luc Colonna, qui est le type qui avait conceptualisé Merci, entre autres. Oui. Il m'avait donné deux conseils. Il m'avait dit, parle-en beaucoup de ton projet, parce que personne te le volera. C'est une espèce de légende urbaine, ça, de si je parle de quelque chose, les gens vont me le prendre et tout ça. Personne te le volera, mais par contre, tu vas te nourrir, te rassurer, échanger. Plein de gens vont te donner des idées, des conseils qui vont être utiles aussi, etc. Et alors ça, c'était la première partie du conseil, c'est parle-en à tout le monde. N'écoute personne. C'est la deuxième partie du conseil, parce que tout le monde va avoir un avis sur le nom, l'emplacement, couleur du sol et tout. Et en fait, tu t'en fous, faut que ça te ressemble. Donc, à un moment donné, fais-toi confiance. Et il m'avait donné un autre conseil qui était si ça n'existe pas, c'est pas parce que personne n'y a pensé, c'est parce que personne n'y a pensé, tant mieux, quoi. Ça n'a aucune importance. Donc, le fait de s'entourer et d'échanger beaucoup, ça m'a vachement aidé, ouais, clairement.
Ce qui était nouveau aussi par rapport à... Enfin, il commençait à y avoir des petites épiceries de quartier.
Ouais, bien, il y en a beaucoup.
Là, ce qui était nouveau, c'est vraiment le côté envergure.
Moi, je voulais que ça soit... je savais que si je faisais petit, c'est plus compliqué de grandir quand on commence petit. Je trouvais ça intéressant de faire un projet qui soit dès le départ un peu couillu. Aussi et surtout parce que en faisant le tour des régions, je me rendais compte du nombre de références dingues de produits dans toutes les catégories. Je me disais, il va falloir de la place en fait là. Et encore
ça,
parce
ça
que je,
au fur et à mesure.
Ouais, enfin, il fallait pousser les murs dès le départ quoi. Donc c'était beaucoup lié à ça et puis aussi parce que je tenais beaucoup à ce qu'il y ait un restaurant et qu'on fasse nous-mêmes le pain. Donc il fallait il fallait une boulangerie. Donc il y avait pas mal de trucs qui demandaient de la place quoi, mais qui faisaient partie pour moi du projet. Enfin, j'aurais pas voulu faire ça s'il y avait pas eu de restaurant. De la même façon que j'aurais pas eu l'idée de faire un restaurant. sans les produits autour. Pour, enfin, il fallait, c'était un tout, c'était tout ou rien, ouais.
Et t'as pris beaucoup de soin et beaucoup de temps à choisir les producteurs et les produits.
Ah bah on, ça continue, enfin ouais, c'est sans fin. La première année, on a passé beaucoup de temps dans les régions à aller rencontrer les producteurs, les éleveurs, les vignerons.
Donc pendant que tu montais, enfin pendant que tu cherchais l'argent.
Pendant que je cherchais les sous, en même temps, je partais, je faisais des road trips dans les régions et en 3 jours, on faisait 15 dégustations par jour. On venait, bon là, on a pris 8 kilos chacun. Mais quand même, c'est, enfin, c'était quand même honnêtement,
le kiff.
Ouais, c'était vraiment cool, quoi. C'était génial. Après, alors à l'époque, c'était très compliqué de se faire échantillonner parce que les producteurs nous disaient, mais vous êtes qui, vous faites quoi, enfin, vous voulez manger gratos en fait. Et j'ai appris d'ailleurs qu'il y a des gens qui vivent comme ça en fait, en se faisant échantillonner, c'est super. Et maintenant, on reçoit des cartons entiers d'échantillons toutes les semaines et c'est hyper frustrant. Enfin, à la fois, on est hyper content hein, parce que ça veut dire que les choses commencent à vraiment bouger sérieusement. Mais c'est frustrant parce que on peut pas évidemment tout référencer, ça n'aurait pas tellement de sens. D'autant plus que je pense qu'il y a plus de personnes qui font de l'huile d'olive que de gens qui en consomment. Il se passe pas une journée sans qu'on reçoive la meilleure huile d'olive de France, de partout, hein, d'Italie, d'Espagne. Idem pour les confitures, si vous pouviez arrêter tout ce qui est production de confitures. On en reçoit quand même vraiment énormément. C'est les deux produits. Quand on reçoit un colis de confiture, on fait « Hey, hey !» Parce qu'en plus, on goûte
encore,
tout
hein.
Par principe et on goûte tout à l'aveugle. Donc à chaque fois, on s'oblige. Quand on reçoit des nouvelles références, on les confronte à des références qu'on a déjà et on regoûte tout à l'aveugle.
Ah oui, pour pour être refaire sûr d'avoir
une sélection.
Meilleure,
en fait, ouais, enfin pour essayer d'être objectif sur la sélection parce que le but était dès le départ d'éviter de choisir un produit parce que c'est une marque qu'on aime bien ou que c'est un chef qui s'est mis à faire des conseils. Ou que il y a un packaging sympa, enfin ça reste, j'ai pas inventé le marketing, donc c'est un peu le principe quoi, le produit séduit avant d'être goûté. Je trouvais ça intéressant qu'on puisse le choisir sans le goûter, sans le regarder. Donc ça serait cool, mais moins non.
Juste enfin, je sais pas. À l'œil.
Non, juste à l'œil, c'est ça. Non, ça c'est moche, on le prend pas. Mais résultat des courses, alors, c'est un peu là inconsciemment que je voulais en venir, c'est qu'on a pas mal de, on a eu pas mal de produits au début qui étaient hyper bon, mais hyper moche.
Hyper moche.
Et du coup, on a fait aussi tout un travail avec les producteurs pour les aider, les accompagner, etc. Parce que malgré tout, en fait, tu te rends compte que plus les producteurs savent que leur produit est super bon, moins ils investissent ou ils font des efforts sur le packaging parce qu'ils sont convaincus du truc. Et nous, on fait beaucoup de dégustations. On fait des dégustations tous les jours, tous les week-ends. Ouais. On fait venir les producteurs aussi pour qu'il y ait un vrai échange, quoi.
Et quels sont tes critères? Enfin, quels sont les critères? Donc, il y a le goût.
Ah bah évidemment le goût en un quand même. Enfin en un c'est quand même la qualité intrinsèque du produit, tu vois. Il faut quand même effectivement, il y a un mot hyper compliqué pour dire ça, mais effectivement on ne goûte même pas les produits dans lesquels il y a des additifs par exemple. Après on n'est pas des ayatollahs du truc, hein, mais on essaie quand même de vraiment tout vérifier. Quand c'est bien renseigné. Après, une fois que ce filtre-là est passé, ce qui écrème déjà beaucoup, le goût, bien sûr, et puis en fonction des produits, la mâche, la texture, la longueur en bouche, les arômes, l'idée qu'on s'en faisait et puis ce qu'on trouve. Alors, on a des grilles de notation, c'est assez simple, tout en étant finalement pas si simplet. On est toujours au moins 4 ou 5 lors des dégustations.
Ah oui.
Ouais, parce que je suis pas convaincue du principe du palais parfait. Enfin, tu vois, je pense que l'oreille, il paraît que l'oreille parfaite existe. Le palais parfait, j'entends tellement de gens prétendre avoir le palais parfait que j'ai quand même un doute, quoi. Y compris des gens qui ont pas les mêmes goûts que moi, par exemple. Donc, je préfère qu'on soit 4 ou 5, parce que du coup, je me dis, si on est tous d'accord, il y a quand même, a priori, il y a une cohérence au moins, quoi. Puis après, évidemment, le prix, les questions d'approvisionnement, de logistique, les coûts d'approche, les DLC, voilà. Après, c'est un métier. Il y a une fille superbe, Moumoun, qui fait ça chez nous depuis l'ouverture, dont c'est le métier de référencer, d'approvisionner, de gérer les stocks, voilà.
Mais en tout cas, vous continuez à tout goûter, comme tu
disais.
Ah
ouais.
C'est
pas la pire partie, hein. Si on pouvait faire que goûter, je pense que tout le monde serait d'accord.
Et donc, on arrive à 650 producteurs, à peu près.
Ouais, il y a à peu près 650, producteurs, éleveurs, vignerons. Enfin,
producteurs au sens large.
Ouais, à peu près. Ouais. Et donc, 80% français. Un peu plus de 80% français.
Et 7000 produits, à peu près?
Ouais, ça varie selon les saisons, mais c'est au moins, je crois qu'on est à 5005 à Beaumarchais, on est à peu près à 6000 ou 6005 ici, ouais, à Saint-Honoré. Je regarde Anne, qui est ma voix off.
Et je me demandais le nom de Maison Plisson. Tu l'as trouvé tout de suite?
Ah, le nom ou le nom?
Je passe.
Ah, le nom de la Maison Plisson.
Le nom de la Maison Plisson.
Si je l'ai trouvé tout de suite. Ouais. Paradoxalement, oui. En fait, il fallait bien trouver un nom. Je voulais surtout pas mettre mon nom de famille.
Donc c'est le nom de qui?
C'est le mien en fait. Oui, c'est mais entre nous, quand j'en parlais avec mes potes et quand on commençait à travailler sur le projet, on l'appelait la maison parce que l'idée c'était quand même le fil rouge, c'était la maison quoi, qu'on se sente bien, que ce soit confortable, que personne se sente exclu ou se dise ah, c'est pas un endroit pour moi, c'est trop machin, c'est trop bidule. Donc la maison ça nous plaisait bien. Après on cherchait tous les trucs avec alimentation générale, alimentation tout est déjà ultra déposé, ça veut. T'as la grande épicerie à Paris qui est quand même qui occupe un peu de place sur le marché tout ça. Et bon après c'est pas en fait c'est compliqué aussi de trouver un nom ne serait-ce que pour des questions de dépôt de marque. Enfin il y a un truc qui fait que bah non c'est déjà pris hein. Et il s'avère que j'ai quand même un nom de famille effectivement un peu franchouillard qui rime avec maison. Du coup c'est devenu un peu quand on en parlait dans le book je disais bah la Maison Plisson mais c'était plus un repère. Bah, c'était plus un repère en fait qu'autre chose, mais
un surnom un peu pour commencer.
J'ai fait des soirées avec beaucoup d'alcool et beaucoup d'amis pour essayer de trouver des idées géniales à 3h du matin et on en revenait toujours à la Maison Plisson. J'ai lutté un peu en me disant c'est quand même un peu chelou quoi, il y a un côté Malkovich. J'en ai parlé à mes frères parce que j'ai quand même des frères qui m'ont dit on va attendre que tu sois riche et puis on te collera un bon gros procès. Puis j'ai toujours pas de procès, donc c'est tout dire. Mais du coup, c'est devenu la Maison Plisson et finalement, enfin, c'est cohérent quoi. C'était pas un truc hyper. Maintenant, ça me fait marrer. Au début, quand on ouvrait le resto, les gens nous volaient les carafes et je trouvais ça hyper bizarre que les gens aient envie d'avoir une carafe avec marqué Maison Plisson chez eux, parce que évidemment, chez moi, il y en a pas. Par exemple, tu vois, il y a un moment où l'ego se calme. Mais je trouvais ça bizarre et du coup, on a fini par les commercialiser. Du coup, on nous en vole moins, mais je pensais pas que ça pouvait être un nom genre. Oh, c'est cool d'avoir une carafe, mais tu vois, c'est mon nom quand même. Quand je veux être tranquille, je m'appelle Delphine Vareille, qui est le nom de mon mari. Quand mon mari veut manger bien, il dit que ça s'appelle Vincent Plisson.
Moi, je fais pareil, parce que mon mec s'appelle Simon, son nom de famille, c'est Simon. Ça fait toujours, pour ceux qui connaissent François Simon. Ouais.
Je suis François Simon.
Les gens ont toujours un petit femme. Doute. Quand je réserve mon nom
je
de Simon.
Je savais pas que c'était
restaurant.
Une femme, François Simon. Je te dis qu'il est venu. Donc ouais, finalement, on l'avait trouvé dès le départ, mais il a fallu plusieurs mois pour arriver à digérer le truc et à l'assimiler.
Être sûr
et
de
l'assumer.
Ton choix, en fait.
Ouais, puis surtout l'assumer, quoi. Ouais. Il y avait un côté quand même super connasse, quoi. Le côté genre, je vais mettre mon nom partout, ça va être plus simple, non? C'était pas... Je me serais appelée Bidouille, je pense que j'aurais pas appelé ça la Maison Bidouille, tu vois, j'aurais trouvé une autre idée, mais il s'avère que j'avais un nom qui marchait avec la maison, quoi. Ouais.
Et tu te souviens quand t'as levé le rideau au printemps 2015 de ta première Maison ouais. Plisson?
Ah oui, je me souviens, ouais.
Ça t'a fait quoi?
Ça m'a fait moins que ce que j'avais espéré parce que ça faisait en vrai tellement longtemps que ça faisait 2 ans qu'on cherchait les sous, les produits, qu'on faisait les travaux, les galères de travaux. Tout le monde a fait des travaux, hein, même poser une étagère, donc vous savez que c'est compliqué. En fait, du coup, ça m'est arrivé pendant les travaux. D'aller fumer des clopes sur le banc en face du chantier le soir en me disant je vais y arriver, je vais tenir, je vais y arriver, ça va aller, ça va le faire. Je rentrais chez moi en me disant, en chantant dans mes écouteurs, j'avais la musique de Rocky. J'étais en mode c'est moi, je vais y arriver. Et du coup le jour de l'ouverture en fait j'étais tellement fatiguée, tellement claquée, tellement submergée de trucs qu'il faut organiser, faut être là, faut qu'il y ait à boire, faut qu'il y ait à manger, faut sourire, faut machin, que du coup c'est passé comme un mariage, tu sais, le truc où tu prépares pendant des mois puis d'un coup paf, c'est fait. Mais on peut la refaire parce que j'ai pas profité. Ouais. Et du coup j'étais ça m'a... le lendemain quand on a ouvert, je me suis dit ah oh, putain on l'a fait quoi, c'est il y a des gens. Oh.
T'as pas eu un petit problème de...
Si, en plus, on a bugué tout le système informatique. T'es bien renseigné. La nuit de précédant l'ouverture, et donc il a fallu tout ressaisir à la main. Et ça a pris 24 heures, donc on a ouvert 24 heures plus tard, après avoir ressaisi tout le truc. C'était un truc de dingo. Sur le coup, on a cru qu'on allait tous mourir, et puis maintenant,
et
on en
rit, évidemment. T'as offert des croissants à tout le monde.
Ouais, parce qu'on avait fait le pain, enfin, tout était prêt, mais on pouvait pas ouvrir, on n'avait pas de caisse. Du coup, on offrait des baguettes, des croissants. Après coup, c'était marrant.
Voilà. J'ai l'impression que t'as un truc quand même pour gérer les problèmes et que ça coule.
Ah, c'est mieux, hein, si tu veux être entrepreneur, ouais. C'est mieux d'avoir un certain, une capacité de résilience, d'adaptation, de.
Un second degré, un dixième degré.
Moi, je panique, ça va paniquer sec dans les rangs. Non, j'ai pas du tout les moyens de paniquer. Et puis, c'est quand même un truc. Puis, j'ai 5 enfants à la maison, donc j'ai de l'entraînement. Tu paniques pas comme à chaque fois qu'il y a un problème, sinon tu fais que ça, en fait. Donc, non.
Ça t'aide à gérer.
Bien sûr. Ouais, c'est un tout. Et puis après, c'est une question de tempérament. On n'a pas tous le même tempérament. Moi, je suis fatigante, hein. Donc, il faut quand même. J'ai fait du sport petite parce qu'il fallait quand même m'occuper. Maintenant, j'ai les maisons plissons, c'est pareil.
Ouais, t'as fait de la natation.
Ouais.
Au niveau.
Je fais de la natation en compétition. J'étais championne d'Île-de-France de papillon. Je crois que je suis née avec ses épaules. Personne ne naît avec des épaules pareilles. C'est ridicule. On me demande toujours de déplacer des pianos.
Bon, et l'emballement médiatique à l'ouverture, tu l'avais prémédité,
ça serait génial de préméditer ça. Écoutez, vous me mettrez la couve du truc. Je vais prendre 8 pages dans le L. Non, ça se prémédite pas.
Ça se travaille un peu quand même.
Ça se travaille bien sûr. Ouais. Après, alors ça se travaille, évidemment, c'est un métier, hein. Il y a des gens dont c'est le métier, RP, Melchior, dans notre cas, qui nous accompagne depuis avant l'ouverture. Mais ça s'organise, ça s'espère, parce qu'après, c'est pas le tout d'en avoir envie, il faut que les journalistes en aient envie aussi. Puis après, il y a de la chance, beaucoup, finalement.
Parce qu'à ce point-là.
Alors, il y a eu beaucoup de chance dans notre cas. Ouais, mais c'est vraiment aussi lié à la chance. C'est-à-dire qu'il y avait un projet qui s'appelait La Jeune Rue, qui devait ouvrir pas très loin et à peu près au même temps. Et qui finalement, il y avait eu beaucoup de presse autour de La Jeune Rue. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Donc, je pense que les médias, du coup, ont eu envie de parler d'un truc qui existait en vrai. Tu vois, de communiquer sur un truc factuel. Ça a joué. Je suppose qu'il s'est rien passé de grave en France cette semaine-là. Enfin, tu vois, je me souviens pas, mais j'imagine que sinon ça serait passé à l'as.
Johnny Hallyday n'est pas mort.
Johnny Hallyday n'est pas mort cette semaine-là, ce qui était plutôt cool et pour Johnny Hallyday et pour nous. Mais en fait, c'est un concours de circonstances. Et puis après, en fait, une fois, on avait eu 2 articles incroyables. François Régis Gaudry avait écrit un article de 8 pages dans l'Express Style, qui était vraiment, enfin, je veux bien qu'on le lise le jour de ma mort. Il y a un côté, c'est tellement beau. Enfin, je le lisais en me disant, mais de qui il parle? Je trouve ça, elle a l'air hyper sympa. J'ai envie de m'auto-rencontrer, tu vois. Donc, je sais que c'était un peu mieux que la réalité, mais c'était super. Et le L aussi, c'est une super moi. Le L avait, au départ, je m'étais dit, ça serait génial qu'on ait un petit truc dans le L. Enfin, j'ai une espèce de fantasme de nana de 45 balais. Ça serait cool qu'on ait un truc dans le L. Et puis, plus ça avançait, et plus elle nous disait, ça, on fera faire une page, peut-être même 2 pages. C'est dingue. Et en fait, ils ont fait genre 6 pages, un truc comme ça. Ce qui était fou, on a eu le Grazia. Puis après, c'est vachement ambigu parce que ça s'emballe. Et puis, je connais aucun chef d'entreprise avec autant de salariés, autant de producteurs derrière qui vous dira, non, mais moi, je préfère qu'on n'en parle pas. Je préfère être discret. Enfin, vraiment, ne parlez pas de nous. On va se débrouiller. Enfin, on fera ça tranquille. Ça prendra le temps que ça prendra. Enfin, je suis désolée, mais bien sûr que c'est un plus d'avoir de la com. Après, c'est ambigu parce que ça crée un truc qui peut être hyper déceptif aussi, parce que les gens s'attendaient. J'entends des gens qui disaient, mais c'est plus petit que la grande épicerie de Paris. Oui, 10 fois plus petit environ, quand même. Et du coup, ça crée un truc qui est vachement ambigu, mais qui est forcément... Je pense que je te dirais la même chose si j'étais la fille d'Isabelle Adjani, en moins bien quand même, mais la fille d'Isabelle Adjani. C'est-à-dire que ça ouvre des portes d'avoir un nom ou de qu'on parle de toi, mais c'est pour autant tout le boulot reste à faire, quoi. Donc
derrière, il faut pas décevoir.
Je dirais même il faut travailler encore plus, ouais. Parce que du coup les attentes sont encore hyper rapides. Il faut être réactif, il faut être c'est un truc très ambigu, mais évidemment qui aide énormément. Enfin, faudrait être un peu con pour dire le contraire, quoi.
Bon, on va faire une petite pause. C'est l'heure de l'aller-retour. Non, c'est juste l'heure de l'aller-retour, mon questionnaire rapide. Non, je vais te demander ton âge.
47 et demi. Oh non, 48 dans 3 semaines, attends. 48 dans 3 semaines.
Ton signe astrologique.
Je suis cancer.
Ton plat signature.
Le pot-au-feu.
Ton plat préféré.
Oula, ça dépend des saisons.
En ce moment,
j'aime tellement de trucs, c'est un scandale. Le vol au vent.
Le chef que tu admires le plus?
Oh, beaucoup.
Restaurateur.
Oh, c'est des complémentarités. Je ne pourrais pas te citer une personne, c'est vraiment nul. J'ai une... Oh, il y en a plein. J'aime tous les chefs qui aiment vraiment leur métier. En fait, je dirais ça. C'est qu'ils le font pour les bonnes raisons et qu'ils le font en étant derrière les fourneaux et en étant à fond. Mais vraiment, enfin, Hervé Bourdon du Petit Hôtel de Grand Large, qui est en ce moment en résidence chez nous, mais qui est en résidence parce qu'on l'adore. Mais enfin, je pourrais, ça serait con de te donner des noms comme ça. Enfin, des gens qui aiment, qui incarnent cette passion-là. C'est un métier de passion, quoi.
Ton ingrédient préféré?
Le champagne. mon ingrédient préféré, le sarrasin. J'en utilise beaucoup, j'adore ça, j'en mets dans beaucoup de choses. Grillé, toasté, en sirop, en tout, j'adore.
Pour le côté breton.
Ouais, ça doit être mon côté breton-japon.
Ton ingrédient détesté?
La banane.
Ah, moi
je
aussi.
Déteste la... C'est vrai, je déteste les bananes. Je déteste ça, je ne comprends pas l'intérêt. Je n'aime pas du tout. Enfin, voilà. Chacun, ce n'est pas très gras. Hein. Je pense qu'on peut vivre ça sans bananes, en fait.
Ton ustensile fétiche?
La pince. J'ai plein de pinces. Je cuisine avec des pinces. Tu sais, les pinces.
À la japonaise, un peu.
Ouais. Je cuisine qu'avec ça, j'adore ça. J'en ai plein.
Ton dernier meilleur repas?
Mon dernier meilleur repas, j'étais chez des copains ce week-end et c'était super parce que c'était des trucs hyper simples de saison. On était en Corse en l'occurrence, c'était que des trucs qui venaient du coin et c'était tuerie totale. Celui d'avant, je dirais celui d'Hervé Bourdon quand même parce que j'ai une tendresse infinie pour ce chef. Ouais.
Et quel est le resto ou lieu que t'aurais aimé ouvrir? Un endroit comme ça où tu te dis...
Et pourquoi je ne l'ai pas fait du coup?
Non,
parce que quelqu'un l'a déjà fait.
Parce que quelqu'un l'a déjà fait, oui.
Que j'aurais aimé ouvrir, un lieu que j'aurais aimé ouvrir à part...
À part la maison Plisson.
Oh, il y en a plein. Comme je suis plutôt branchée épicerie, l'idéal chez Julia à Marseille, c'est une copine, j'adore. Enfin, je trouve ça super. J'aurais aimé monter le resto de Dan Barber aux États-Unis, dans le, tu vois où il est.
Ouais, c'est ça.
Bah, enfin, ce côté simple, tu vois, un truc pas ambitieux. Bah, en même temps, je l'ai pas fait, donc je peux prendre un truc super ambitieux parce que j'ai rien à faire, c'est déjà fait.
Le meilleur compliment qu'on t'ait fait?
Sur mon corps. en vrai, qu'on se sent comme à la maison, en mieux, quand on vient manger ici ou faire ses courses, ouais. Ça, j'aime bien.
Et la pire critique?
C'est souvent très, enfin, quelqu'un qui a pas aimé tel dessert ou qui a pas aimé un truc ou qui a trouvé que le boucher était pas assez souriant. Mais c'est des trucs hyper anecdotiques. J'ai jamais eu de critique vraiment méchante globale, tu vois, sur le truc. En plus, je retiens pas les trucs négatifs. Alors si c'est constructif, oui, mais si c'est vraiment pour dire que le sol des toilettes leur plaît pas, enfin,
c'est pas très.
Ouais, j'oublie hyper vite. Ouais.
Bon, heureusement. Okay. L'aller-retour est terminé. Bon, il y a pile un an, t'as ouvert la deuxième maison Plisson où nous sommes en ce moment. Est-ce que tu l'avais marqué aussi dans le business plan ou c'est venu
Non, c'était même prévu. En fait, on savait dès le départ qu'il faudrait en faire au moins deux parce que la distribution alimentaire n'est pas quelque chose qui rapporte de l'argent, concrètement. La restauration, oui, si c'est fait de façon à ce que ça rapporte de l'argent, mais la distribution, c'est des toutes petites marges, surtout quand on fait des produits de qualité parce que si ça sort trop cher, on les vend pas, donc il y a quand même une cohérence. Donc, je savais que les frais d'organisation allaient être importants. Y a des responsables, il y a des salaires importants. Donc, il faut les mutualiser entre plusieurs... Bon, enfin, pour faire court, même, enfin, tout le monde vit ça. C'est-à-dire que dans la distribution alimentaire, je mets vraiment de côté la restauration, mais un Monoprix, un Franprix, un Carrefour City gagnent très peu d'argent en réalité. Ce qui leur permet de gagner de l'argent, c'est d'en avoir énormément. Donc, la distribution alimentaire part... Et alors, a fortiori, sur des producteurs artisanaux, on n'est pas sur des délais de paiement comme si on achetait du Coca-Cola... On n'en a évidemment pas ici. On n'est pas sur les mêmes prix, on n'est pas sur les mêmes organisations logistiques. Donc, tout coûte plus d'argent, mais c'était un choix. Donc, il était évident dès le départ qu'il fallait qu'il y en ait au moins deux. Et après, il a fallu la trouver et ça a pris du temps, toujours pour les mêmes raisons. Puis, il a fallu la financer, rebelote. Et donc, je savais qu'il y en aurait une deuxième et je suis contente qu'elle soit aussi grande parce que c'est vraiment cool de pouvoir référencer autant de produits.
Oui, t'as plus de place et donc plus
de
produits.
Ouais, il y a plus de place, donc plus de produits. Puis il y a les labos. On fait beaucoup plus de choses. On fabrique du coup beaucoup plus de choses nous-mêmes, ce qui est super aussi. et on jette terrasse, plus du tout de nourriture. Bah, y a une terrasse à Beaumarchais aussi. Après, c'est un quartier que j'appréhendais un peu parce que pour moi, c'était vraiment un quartier de bureau. C'était pas un quartier de vie. Enfin, c'est pas un quartier de vie. Hein. Je connais très peu de gens qui vivent Place du Marché Saint-Honoré. Mais en fait, j'étais hyper surprise de voir que finalement, si, il y a une école dans la rue d'à côté. Donc, ça m'angoissait de faire un lieu strictement bureau ou quartier chic, un truc vraiment clivant. Et en fait, c'est pas le cas parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées d'abord qui habitent dans le quartier, qui habitaient là à l'époque où la place ici, en lieu et place de la Maison Plisson, il y avait une fromagerie, une poissonnerie il y a 30 ans, donc c'est marrant comme finalement la retourne. Et puis il y a une école à côté, donc il y a beaucoup de familles, donc finalement il y a quand même les mamans, les mamies, les goûters, les anniversaires. Et ça, du coup, on a réussi à recréer quand même un truc de proximité, ouais.
Et il y en aura une troisième ou...
Il y en aura encore 243 qui sont prévus sur 2020. Honnêtement, pour l'instant, je ne sais pas. Moi, j'ai pas de bébé à 10 ans, donc il faut déjà. Comme les mômes, enfin, tu vois, j'attends qu'elles sachent marcher toutes seules et qu'elles soient à peu près autonomes ou en tout cas indépendantes financièrement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, pour commencer à réfléchir à une troisième.
Une troisième. Ouais. Et la première est autonome ou...
Elle marche depuis peu. Elle marche au sens, elle est autonome physiquement,
sans se tenir la main.
Financièrement depuis peu, ouais.
Il y a un autre chiffre, enfin on va rester dans les chiffres, un autre chiffre qui m'a impressionné. C'est tu m'as sorti le jour que vous serviez entre 700 et 1000 repas par jour.
Ouais, entre les deux maisons, ouais.
C'est beaucoup. Alors, enfin, c'est énorme.
On fait entre 250 et 350, 400 couverts à Beaumarchais par jour, selon la météo, selon si la terrasse est ouverte ou pas, parce qu'elle est assez importante. On n'ouvre pas le soir, donc on fait ça entre 8h30 et 20h30. Et à Saint-Honoré, on complète. Donc en tout, on n'est pas loin de 1000 couverts par jour, en fait, ouais. Ce qui est super parce que d'abord, c'est ce qui fait un lieu de vie. Enfin, quand les gens viennent boire un verre ou prendre un café le matin, c'est pas la même chose que de rentrer dans une enseigne de grande distrib. Enfin, c'est quand même un peu plus chaleureux. Et puis, ça permet de pas du tout jeter de nourriture. On a zéro casse en fruits et légumes, en boucherie et compagnie, parce que du coup, tout passe au restaurant. Ce qui permet aussi d'être un peu cohérent dans la chaîne de valeur qu'on a souhaité mettre en place. Comme en boucherie, on n'achète que des bêtes nées et élevées en France et qu'on les achète sur pied, on les découpe ici. On a un labo boucherie
au deuxième sous-sol. C'est réparti entre ici et Beaumarchais.
Et après, ouais, exactement, on répartit entre les deux restaurants et les deux boucheries. Et puis les bouchers transforment. Donc ils font des saucisses, ils font des merguez, ils font des brochettes, ils font des rôtis, ce qui nous permet à la fois de faire tourner la boucherie et aussi de passer toutes les pièces un peu à mijoter, les pièces qui sont un peu plus compliquées à vendre selon les saisons au restaurant, ouais. Même les abats, le jeudi, c'est très pris, en l'occurrence. Donc, on fait entre... Je pense que c'est le truc qui me plaît le plus. On fait autant de couverts sans vendre de Coca-Cola. Et je pense qu'au départ, tout le monde me disait « Mais tu peux pas ne pas avoir de Coca-Cola. Les gens ne viendront pas manger, quoi. » En fait, si, les gens ne sont pas idiots, quoi. Ouais. Puis surtout, si t'as vraiment envie de boire un Coca-Cola, tu devrais pouvoir en trouver un facilement autour. Mais chez nous, il y en a pas, et ça fait partie. On est parfois un peu radicaux dans certains trucs comme ça, mais je trouve ça, de la même façon que notre takeaway, on a éradiqué tout l'emballage en plastique, on est passé à la fécule de maïs, au carton, et je trouve que voilà, c'est intéressant d'essayer de faire de notre mieux, en tout cas.
Ouais. Dans cette direction. Ouais. Mais en tout cas, il y a une vraie intelligence, comme tu dis, pour tout.
Intelligence, je ne sais pas, mais en tout cas, cohérence. Mais c'était le principe, le resto permet ça, bien sûr. Et aussi d'optimiser nos marges. Bien évidemment que tu gagnes mieux ta vie avec un restaurant, mais d'un autre côté, ça coûte plus cher aussi. Il y a plus de personnel. Enfin, après, c'est des points d'équilibre à trouver. Il y a 11 métiers différents ici, donc on passe notre temps à essayer de trouver des points d'équilibre. C'est le principe, quoi.
Et il y a combien d'employés sur les deux maisons ?
120, à peu près. 120. À deux près, je dirais, cette semaine. 120, ouais.
Ça va que t'es comment ? T'es quel genre de patronne avec eux ?
Faudrait demander aux salariés. Je peux dire que je suis une patronne présente, déjà.
Du lundi au samedi, c'est ça?
Ouais, je suis là du lundi. Je suis à Beaumarchais le matin tôt. Après, je viens à Saint-Aud toute la journée. Je reste parfois le soir, sinon je retourne à Beaumarchais. Et le samedi, je suis à Beaumarchais. Et le dimanche, uniquement s'il y a besoin, ouais. Sinon je suis off, ouais. Mais, des fois, je viendrai bien, mais je ne peux point. Non, je dirais présente et je crois beaucoup je crois que j'ai été salariée 20 ans, donc je sais quels sont les patrons que j'ai respectés et pourquoi. Tu vois, je crois à l'exemplarité et puis à la valorisation, quoi. Je n'ai pas du tout envie d'autre chose, quoi.
Et tu te sens bien comme entrepreneur?
Ah ouais. Ouais, ouais, j'aime bien
toi
ça.
Toi qui te rêvais pas entrepreneur.
Bah non, en fait, je trouve ça vraiment chouette parce que je peux m'en prendre qu'à moi-même si je fais des conneries, mais d'un autre côté quand ça marche, bah du coup, c'est quand même assez valorisant fierté, aussi de se dire que on arrive à porter le truc et à faire en sorte que les 120 salaires soient payés à la fin du mois, les 650 producteurs aussi, les banques aussi, même si on gagne pas de sous parce que très concrètement pour l'instant le projet n'est pas encore complètement rentable, on fait un... Enfin, j'entends beaucoup de gens donner des conseils, avoir des idées sur ce qu'il faudrait faire ou pas. Nous, on est dans le concret, quoi. On fait les choses, quoi. Donc, moi, ouais, je trouve ça vraiment super que les producteurs puissent proposer leurs produits ici et soient payés correctement en échange, que du coup les clients puissent avoir accès à ces produits-là et puissent faire le choix d'une alimentation en phase avec ces valeurs-là, et qu'il y ait des salariés qui soient impliqués et qui rentrent chez eux le soir en se disant « bah ouais, j'ai fait un truc utile de ma journée, quoi ». Donc ça me semble être plutôt agréable à assumer, même si c'est pas facile. Mais enfin, les boulots faciles sont pas forcément les plus intéressants.
Hein. Et tu te présentes comment? C'est une question que j'aime bien poser quand on te connaît pas et qu'on te demande ce que tu fais comme métier.
Je suis épicière.
Épicière, ça te va bien?
Je trouve ça hyper... J'adore. Je trouve ça tellement chouette d'être épicière. En vrai, je suis épicière parce que ce que je fais le plus au quotidien, c'est de la gestion. Il y a quand même 650 fournisseurs, il y a beaucoup de comptabilité, il y a beaucoup de banques, il y a beaucoup de... tout est quand même... Mais en fait, on dit souvent, quand un truc est compliqué, on dit c'est un vrai métier, c'est un vrai travail d'épicier, quand c'est minutieux, précis, etc. Et mon vrai métier, c'est quand même ça. Donc, épicière au sens aussi, j'ai la tête dans le guidon, je fais que dans le détail, Après, ce que je préfère faire, c'est être dans le magasin et pouvoir être avec les équipes et rencontrer les clients et discuter. Mais dans les faits, la majeure partie de mon temps n'est pas dédiée à ça, non.
À quoi ressemblent tes journées?
Ah, à n'importe quoi. Non, alors franchement, j'ai évidemment pas de journée type. Je me lève très tôt, je m'occupe de mes mômes, après plus ou moins. après, je passe à Beaumarchais, dire bonjour, voir si tout se passe bien jusqu'ici, puisque les boulangers arrivent très tôt le matin, les bouchers aussi, les cuisiniers aussi. Je regarde si les arrivages sont ok. Après, je prends mon scooter. Si tout va bien, j'ai le temps d'aller faire une heure de pilates. Mais alors là, c'est la version totalement romancée du truc. Ça m'arrive de temps en temps, mais c'est assez rare. Du coup, j'arrive ici, je dis bonjour à tout le monde ici, je fais la même chose, je regarde si tout est en place, si tout le monde est là, si tout le monde va bien, si les produits sont là, si on est prêt pour l'ouverture. On ouvre à 8h30. En général, j'ai un ou deux petits-déj, banquier, journaliste, avocat, projet, personne de l'équipe. Voilà, ça me tient un bout de la matinée. Après, je vais au bureau faire mes tableaux Excel favoris. J'ai rarement le temps de déjeuner, mais j'essaye de prendre le temps d'aller déjà en cuisine avant le service pour être sûr que tout va bien, etc. On discute le matin en arrivant du plat du jour et puis de la tout ce qui est à la carte, c'est des choses sur lesquelles que j'ai goûté, que j'ai validé, parfois que j'ai inspiré. J'arrive avec mes recettes, je les saoule, mais j'aime bien.
Ressortie du Ginette Mathieu.
Ouais. Dites donc, vous connaissez cette recette fameuse? Mais du coup, ce qui me permet d'être super à l'aise avec tout ce qui sort au restaurant. Puis l'après-midi passe à une vitesse folle, et puis après, quand tout va bien, il y a apéro. Et puis sinon, j'ai souvent des dîners de boulot ou des réunions. Et puis après, je rentre et je tombe.
T'as l'œil partout. Enfin, parce que ici, en tout cas, ça fait partie de ton job d'avoir l'œil partout.
Ça fait partie du plaisir. Bonsoir. Ça fait partie du plaisir du job. De pouvoir passer 5 minutes à droite à gauche pour savoir ce qu'il y a comme produit, est-ce qu'on goûte ça, qui a fait ça, est-ce qu'on a reçu machin. Et puis même de discuter avec le staff, ça apprend que Eugénie est enceinte, que enfin c'est ça, la vie de l'équipe me plaît, c'est ce qui me plaît le plus. Moi à la base je suis un chien de meute, je suis pas du tout un loup solitaire, quoi. C'est ce qui me plaît, c'est avant tout les gens, c'est les producteurs, les salariés, et par extension les actionnaires avec qui j'ai de super bonnes relations, parce que c'est chouette aussi de pouvoir échanger avec eux sur plein de trucs. Enfin, c'est vraiment un tout, quoi.
Les clients aussi.
Ah mais je passe mon temps. Alors ça c'est mon truc préféré parce que la période que je préfère dans l'année c'est fin août quand les clients rentrent de vacances et qu'ils nous rapportent des cartons entiers d'échantillons. Tous les ans, j'adore.
Ils sont devenus ambassadeurs de la
c'est,
maison Pisson.
Ah mais ça c'est génial, c'est-à-dire qu'ils rentrent du Pays Basque avec des boudins, des confitures. Et c'est génial. Plus tous les gens qui font des trucs et qui nous les déposent avec le mari qui est avec les warnings boulevard Beaumarchais et la nana qui sort avec les confitures qu'elle a faites la veille. Hein, et j'ai dû lui dire bah ouais mais
encore
non en fait là c'est un peu. Vous avez un agrément sanitaire ou... Et à chaque fois, on adorerait dire oui parce que je trouve ça tellement cool, quoi. Mais après, on est un peu surveillé, évidemment, ça serait un peu plus compliqué.
La vision romantique.
Mais j'adore. Et quand je peux, j'adore être à la caisse. Mais oui. Par contre, les caissières détestent parce que je ralentis le bordel. Je passe mon temps à papoter. Mais c'est évidemment.
Qu'est-ce qui guide ton envie de te lever chaque jour?
Le fait de retrouver l'équipe, d'aller voir si tout va bien, si on est en place. C'est comme une pièce de théâtre. C'est-à-dire que tu recommences à zéro tous les matins. Faut que la marchandise arrive, que l'équipe soit là, qu'elle ait envie d'être là, que ce soit propre, qu'on soit prêt, qu'on ait envie d'être là, que... Comme le poisson pourrit toujours par la tête, proverbe chinois, je m'efforce d'être toujours de bonne humeur et d'avoir toujours la pêche pour que ça s'infiltre d'une façon ou d'une autre dans les rangs, quoi.
Ça a l'air de marcher, en tout cas.
Jusqu'ici, ça va, voilà. Comme dirait Michel Drucker, le plus dur, c'est de durer. Hein.
Est-ce que tu as un souvenir marquant d'une rencontre avec un producteur, un vigneron?
Oh, t'en as plein. 1000. 6500 environ. Un souvenir marquant... tous les souvenirs de rencontres avec les producteurs, c'est toujours... Comme c'est... Le produit est génial, mais l'humain est quand même essentiel. Donc, si je pourrais, comme qui me revient comme ça, c'est Jean-Marc Rouleau, qui est vigneron à Meursault, parce que je l'avais contacté, parce que mon meilleur ami, le même que tout à l'heure, m'avait dit, ah, c'est bête, mon vin préféré, c'est un vin de chez Jean-Marc Rouleau, mais tu l'auras pas parce que on peut pas en avoir. Du coup, moi, j'ai écrit à Jean-Marc Rouleau. Enfin, j'ai trouvé le numéro de portable de Jean-Marc Rouleau à force de chercher. Tu vois. Et j'ai envoyé un texto en disant « Je voudrais 12 bouteilles de Claude Fouché. Des autres trucs. » Et le type m'a appelé en disant « Mais vous êtes qui ? Ça se passe pas du tout comme ça. En fait, il y a des allocations. Et alors non, vous n'avez pas d'allocation. Donc en fait, vous pouvez pas en avoir. » Et en fait, il est venu un jour à Paris pour complètement autre chose. Il m'a rappelé, mec incroyable. Il est venu sur le chantier. Je lui ai raconté le projet, qui était un troubéon, boulevard Beaumarchais à ce moment-là, en plein hiver et tout. Il m'a dit, mais pourquoi vous voulez ce vin-là? Et je lui dis, parce que mon meilleur ami. Donc, je lui raconte le truc. Et 2 jours après, j'ai reçu un mail me disant que j'avais droit à une allocation.
Ouais.
C'était tellement chic. T'imagines? Non, mais c'était juste tellement chic, quoi. On en a bu une, du coup, le soir de l'ouverture, tu penses?
Je crois que j'adore. J'ai été citée dans les gouttes de Dieu, ou je sais plus, mais c'est effectivement un vigneron... star de la Bourgogne.
C'est surtout un homme génial.
Je ne connais pas. Mais...
En même temps, il y a très peu d'hommes et de femmes, évidemment, hein, par extension. Pas par extension, mais je vais me faire engueuler. Mais en général, c'est un métier quand même où il y a très peu de cons, j'ai remarqué. Il y a beaucoup de gens très passionnés, parfois un peu excessifs, un peu trop passionnés, machin. Mais je n'ai pas rencontré d'abrutis.
C'est des belles rencontres.
Non, les gens qui font des bons produits, il n'y a pas de hasard. Enfin, tu vois, il y a une espèce de truc... les gens qui font des bons produits sont des gens qui aiment la vie, sont des gens qui ont des valeurs, sont des gens qui aiment travailler, sont des gens qui... Enfin, il y a quand même un... Enfin, là, tu as la version un peu cool du truc, ça se passe bien, c'est une épicerie à Paris, on a des jolies adresses, mais la plupart des gens qui font les produits, qui sont à la Maison Plisson, travaillent dans des conditions qui sont concrètement difficiles. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je suis heureuse qu'ils puissent être distribués, parce qu'il n'y a pas de hasard, à un moment donné, il faut qu'ils gagnent leur vie, mais les conditions de travail au quotidien d'un agriculteur... tu vois, tu me demandais une rencontre, Élise et Thierry Riant, qui sont maraîchers à Carrières-sur-Essonne, à 10 km de la Porte Maillot, je les ai rencontrés par l'intermédiaire d'Éric Fesneau, qui travaille à la revue 180 degrés, qui m'avait dit, tu les adorerais et tout, on a été les voir... Ça a été un coup de foudre. À l'époque, ils faisaient que les marchés. Et du coup, ils m'ont dit, ouais, on n'est pas sûr et tout. Puis en fait, on travaille avec eux depuis. Et c'est quand même génial de pouvoir, soutenir concrètement, en fait. C'est pas un truc, j'ai pas l'impression d'avoir trouvé un vaccin. C'est pas un truc d'égo, mais je trouve ça cool d'être dans le concret, quoi. De pouvoir faire les choses, quoi.
T'es leur ambassadrice. Enfin,
je suis leur distributrice, donc ça leur suffit. Ils demandent pas plus que d'être distribués et de gagner leur vie, comme tout le monde, quoi, tu vois. Mais en plus, en étant, enfin, il y a pas de saloperie ici. Ils vont pas être mélangés à des produits de marque industrielle, ce qui est souvent le cas, tu vois, dans les trucs un peu, je vais pas citer de nom, mais dans les, il y a des très gros projets où tu te retrouves à côté de Knacky Ball sur un énorme malentendu alors que tu fais un super jambon. Enfin, moi ça m'emmerde ça. Et puis après, du coup, les gens disent oh, c'est hyper cher, alors que bah non, c'est pas hyper cher si tu réfléchis deux secondes au travail qu'il y a derrière, à la qualité des produits. Enfin, et puis le vrai sujet, c'est quand même, c'est quoi cher. Enfin, il y a un moment donné, je veux bien, mais moi, je suis hyper à l'aise avec les prix qu'on pratique ici, en particulier sur le frais, parce qu'on compare souvent et qu'on est très souvent aligné sur des monoprix ou qui n'est pas cher en l'occurrence, mais en tout cas dont les produits ne sont pas à la moitié de la qualité de ce qu'on fait. Après, ça nous demande beaucoup plus de travail. Parce que nous, comme je te le disais, on achète les bêtes sur pied, on les découpe, on les prépare, donc forcément on les paye moins cher, mais c'est un travail de taré, mais d'un autre côté c'est une qualité incroyable. La charcuterie, on travaille uniquement effectivement avec des artisans charcutiers, souvent en région, qui font des terrines incroyables, etc. On a une qualité de produit qui est insensée, et surtout qui est à la fois qui fait son boulot. C'est-à-dire qu'on a un peu mis de côté le fait que manger, ça devrait être une source de plaisir. C'est quand même un sujet. On mange 2 à 3 fois par jour. Ce serait pas débile qu'on prenne un peu de plaisir. Et puis c'est notre santé. Enfin, très santé, concrètement, ton aliment est ta première médecine, pour citer. Bref, on s'en fout. Mais dans les faits, fille qui se met à faire des citations, tout hyper flippant. Dans les faits, c'est quand même un sujet de se dire que c'est quand même notre santé. Donc le fait qu'on ait des pubs pour des soldes sur les yaourts ou sur le jambon, enfin moi je trouve ça hyper violent, quoi. Sans parler, si tu penses deux secondes aux mecs qui ont fait les yaourts et le truc derrière, quoi. Enfin, donc non, je pense que mal manger coûte très cher, y compris à la société, à l'environnement et compagnie. Et bien manger devrait être normal, et oui, ça coûte un peu plus cher, mais ça devrait être une priorité dans notre budget, y compris dans notre budget, que d'accepter l'idée de faire un effort pour bien se nourrir, donc être en bonne santé et préserver notre terre. Je trouve pas ça dément. On sait que dans les années 60, le budget alimentation d'une famille française, c'était 30% de ses revenus.
C'est surtout que ça
aujourd'hui, c'est 14%. Et on trouve ça hyper normal, en fait. Moi, je vois pas. Enfin, entre temps, on a découvert qu'il fallait acheter des iPhones et porter des Nike, donc ça a un peu bousculé l'organisation des budgets, c'est sûr. Mais c'est quand même délirant qu'on considère le budget alimentation comme
ça a jamais coûté aussi peu cher,
anecdotique.
En fait.
Ah non, ça a jamais coûté aussi peu cher.
C'est pour ça que les gens, ils trouvent ça normal et ils trouvent ça cher. Bah,
non, mais ce qui est dingue, c'est qu'en fait, les gens, comme tu dis, ne mangent pas mieux qu'avant. Ils mangent éventuellement plus, mais ils mangent beaucoup moins, parce que les produits transformés qu'on trouve dans les supermarchés ne sont absolument pas nourrissants. Ils sont éventuellement transformés de façon à être un peu agréables en bouche, mais ils ne remplissent pas du tout leur fonction
de nourrir
et de protéger, ce qui est quand même un petit peu le sujet, quoi. Donc le sujet de l'argent, pour moi, est indécent, dans la mesure où commençons par respecter les terres et les producteurs, faisons peut-être un effort sur nos budgets pour avoir un minimum de respect pour notre santé et pour la santé de nos proches, de nos enfants, etc. Et en tout cas, moi, je suis hyper à l'aise avec les marges qu'on fait ici, donc j'ai pas du tout l'impression de me rincer sur le dos ni des producteurs ni des clients. Ça, c'est absolument certain, quoi.
Bon, c'est quoi la recette du succès d'un établissement comme celui-ci ?
L'opiniâtreté. Le travail, l'opiniâtreté. Il n'y a pas de recette, quoi. Ouais.
On vient souvent, on te sollicite souvent pour avoir des conseils. Tu dis que tu faisais des rendez-vous des fois pour des projets, etc.
Ouais, ça m'arrive.
On demande souvent.
Parce que je suis une femme.
Très à la mode en ce moment.
On me demande souvent. Au début, j'étais un peu contrariée parce que je me disais, mais je suis pas une femme entrepreneur. Enfin, c'est bizarre cette catégorie, quoi. En fait, j'ai compris. Du coup, je refusais souvent les conférences pour les femmes entrepreneurs et ça. Entre temps, j'ai compris grâce à une banquière qui est devenue amie, qu'en fait, il y a que 14, je crois, ou 15, enfin, je sais pas le chiffre exact, mais vraiment nul, de boîtes qui sont créées par des femmes en France en 2019, quoi.
Ah oui.
Et c'est pas parce qu'elles ont pas d'idées ou qu'elles sont cons, c'est juste parce qu'il y a quand même encore plein de blocages culturels, sociaux, familiaux, etc., qui font que ça reste quand même compliqué.
Enfin,
ça reste compliqué, qu'on le veuille ou non. Mais après, il faut avancer, il faut lutter, ça va se décanter, mais c'est quand même un sujet. Du coup, je refuse rarement un café à une nana qui va m'envoyer un mail en me disant qu'elle voudrait avoir mon avis ou un truc. Après, malheureusement, Je peux pas prendre des cafés, sinon ça devient mon métier, en fait. Non, j'adorerais, mais enfin non, en fait, j'adorerais pas. D'ailleurs, j'aime bien le faire de temps en temps, mais évidemment, c'est souvent d'ailleurs, c'est des échanges super intéressants pour eux, comme enfin pour eux, j'espère, mais en tout cas pour moi, parce que c'est toujours super intéressant d'être confronté à des énergies de construction, d'envie, etc. C'est toujours galvanisant, quoi.
Et tu parlais de quelqu'un, j'ai oublié son nom, Colonna. Enfin.
Ah oui. Jean-Luc Colonna.
Colonna, ouais. Qui t'avait donné deux conseils.
Bah oui, mais c'est aussi pour ça que
toi,
je le fais. Et avant lui, d'autres personnes.
Ah, mais
d'abord, je trouve ça. Alors, je donne pas des conseils parce que d'abord, qui suis-je pour donner des conseils? Déjà, mais en deux aussi parce que, en vrai, les conseils, ils sont valables si tu connais très, très, très bien la personne. Après, il y a tellement de paramètres, le tempérament, l'environnement, les moyens, l'ambition réelle. Enfin, il y a tellement de paramètres qui t'échappent quand tu rencontres quelqu'un une heure que tu peux pas lui dire tu devrais faire ci, ça, ça. Puis il y a pas, enfin, tu vois, s'il y avait une recette, je l'aurais appliquée, tout le monde l'appliquerait, ce serait super simple. Chacun doit construire son truc. Bah, tu vois, tout à l'heure, je faisais le parallèle avec la maternité, mais c'est comme si t'accouchais, qu'on disait, alors, il va falloir faire ça, ça, ça. Bah, il y a des bouquins entiers, hein. Mais quand tu les lis, tu te rends compte que c'est complètement con. Enfin, tu vas te faire confiance et puis tu vas avancer. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est si vous y tenez vraiment beaucoup, vous allez y arriver, mais ça va vous demander énormément de travail, de courage. Tu dis alpiniste, hein. C'est un truc, faut pas lâcher, faut traverser les tempêtes, faut se relever, c'est pas simple, mais si c'était simple, est-ce que ça aurait autant d'intérêt? Enfin, vous avez 4 ans.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
J'ai l'habitude de demander une recette de la maison à mes invités. Qu'est-ce que tu fais, toi ?
Je ferai une salade d'artichaut, crue à la mandoline, avec marinée dans de l'huile d'olive, du sel, du jus de citron, avec un peu de copeaux de parmesan dessus et un verre de blanc.
Parfait.
Le verre de blanc, pas pour les enfants.
Bon, on y est déjà.
T'en mets bien.
Suivant les circonstances. Merci beaucoup à tout
merci
le monde.
Merci à
venu.
Tous et à toutes. Merci beaucoup.
Delphine.
Merci beaucoup.
Vous venez d'écouter l'épisode 3 de la saison 3 avec la joyeuse Delphine Plisson. Vous pouvez goûter ce qu'elle a dans ses rayons, dans les deux maisons Plisson, boulevard Beaumarchais ou place du marché Saint-Honoré, et dans le nouveau Petit Plisson, rue des Petits Carreaux à Paris. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir les deux premières saisons d'Apoil sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil-lepodcast.com. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. Merci à Garance Munoz et à Jacques Lerouge qui m'ont aidé à préparer cet épisode. N'oubliez pas de noter le podcast avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcasts. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Apoil.